Et on va revenir sur la rencontre entre les deux hommes les plus puissants du monde, ou parmi les plus puissants du monde, hein, c'est selon Donald Trump, président américain, et Xi Jinping, le président de la Chine. Daniel Haber nous livre toutes ses analyses.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors on va évidemment revenir sur l'événement de la fin de semaine dernière, à savoir la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump. On a vu énormément d'images des deux hommes les plus puissants qui ont gambadé ensemble dans des jardins chinois. Mais évidemment, on va parler du fond, hein, une rencontre qui n'a pas forcément donné de résultats extrêmement clairs malgré tout. Est-ce qu'on peut parler des résultats qui ont tout de même été atteints?
Écoutez, cette rencontre a été certainement importante et de mon point de vue, elle est positive. Alors, vous avez beaucoup de commentateurs qui rappellent quand même que du point de vue chinois, Trump est quelqu'un qui est en fin de mandat parce que les risques qu'il perde la majorité au Congrès sont élevés et donc il sera un président un peu comme on appelle canard boiteux et donc il se positionne plutôt pour le prochain président et donc il gagne du temps. Mais je crois pas. Je crois que un certain nombre de choses importantes ont été atteintes, qui à la fois pour donner de l'espoir à ce qu'on appelle un ordre mondial plus apaisé et même sur une possibilité de contribution de la Chine au règlement du conflit du Moyen-Orient. Je m'explique. D'abord, il faut jamais oublier que cette rencontre était programmée avant le conflit avec l'Iran. Fait partie de ces rencontres pratiquement annuelles, bilatérales, indispensables pour que les deux grandes puissances mondiales établissent un dialogue qui est au fond indispensable à la paix du monde. Et depuis que Xi est au pouvoir, il a rencontré Obama, il a rencontré Biden, il a rencontré Trump plusieurs fois. Trump a été celui qui a été évidemment le mieux reçu parce qu'il n'est pas hostile à la Chine. Et ce que vous avez rappelé en introduction, effectivement, il y avait un côté amical des deux côtés qui a sauté aux yeux. Donc, l'idée de ces rencontres, de toute façon, en dehors même du conflit, c'est de mettre des limites à la confrontation. Cette confrontation, elle a commencé avec Obama et avec Xi. Elle a 12 ou 13 ans d'âge, non, cette confrontation. Il s'agit de mettre des limites à cette confrontation. Première limite, on ne se fait pas la guerre à propos de Taïwan, ça c'est confirmé. Deuxième limite, on ne va pas vers la guerre froide, c'est-à-dire une séparation totale des deux grandes puissances. Tout simplement, c'est impossible. Les deux économies sont extrêmement interdépendantes. Et justement, on dit il faut quand même que chacun se dégage un peu de cette interdépendance. Les Chinois veulent se dégager de la dépendance sur les puces électroniques, qui sont les fondements de l'intelligence artificielle, et les Américains veulent se dégager de la dépendance qu'ils ont vis-à-vis des Chinois sur les terres rares. Mais ça va prendre du temps. Donc en attendant, on dit, bah écoutez, on va pas trop se faire la guerre et on va se faire une concurrence aussi loyale que possible. Et si vous pensez qu'elle est pas loyale, bah vous mettrez des droits de douane et donc on discute des droits de douane. Donc il y a une forme d'apaisement qui sort toujours de ces rencontres. Sur le conflit avec l'Iran, il est certain que la fermeture du détroit d'Hormuz a internationalisé le conflit. On sait que c'est l'Asie qui est le plus touchée, et dans l'Asie, il y a évidemment le Japon et la Corée, mais il y a la Chine surtout. Et donc, l'intérêt de la Chine pour mettre fin au moins au blocage du détroit d'Hormuz est très élevé, même s'il n'est pas urgent. Voilà, voilà un petit peu le cadre.
Oui, justement, vous l'avez évoqué, le conflit iranien. Quel est le rôle de la Chine? Est-ce qu'on a des indications suite à cette rencontre?
Non, il n'y a aucune indication claire, dit surtout concrète, mais si vous voulez, avec la Chine, il faut aller étape par étape. Donc ça, c'est une étape, un préalable qui était d'établir un petit peu un bon contexte positif et chacun ne faisait en sorte de ne pas avouer ses formes de faiblesse. Donc Trump n'est pas venu implorer l'aide de la Chine. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont réglé leurs différends bilatéraux, notamment la Chine qui est consciente qu'elle a un excédent commercial énorme sur les États-Unis, achète des Boeing, achète du soja dans des, justement, qui viennent des États très importants pour les futures élections de Trump. Donc tout ça, c'est trop positif pour Trump. Sur le Moyen-Orient, il y a quand même deux déclarations de Trump qui sont tout à fait essentielles. La première, c'est une déclaration sur la liberté de navigation. Et certain qu'une grande puissance commerciale comme la Chine peut pas tolérer qu'on bloque des artères comme ça, non seulement Hormuz, mais dans le monde entier. Donc ça, c'est clair et c'est certainement entendu par les Iraniens. Et deuxièmement, une déclaration sur la non-prolifération nucléaire. Je pense que les Chinois sont pas du tout positifs sur le programme nucléaire iranien. Donc ça, c'est important. Les plus importants, finalement, ça a été deux choses. La première, c'est que pour la première fois, ça a été bien perçu par les commentateurs, les deux pays sont apparus comme étant à égalité. On a vraiment eu deux hyperpuissances à égalité. Ça s'est senti des deux côtés. Et notamment lorsque Xi Jinping a rappelé ce qu'il appelait le piège de Thucydide, qui parle des deux grandes puissances, Thucydide, un historien grec d'il y a 2500 ans, qui disait que le conflit est inévitable entre une grande puissance qui monte et une grande puissance qui descend. Et donc, Xi et Trump sont d'accord pour dire on va pas faire ça. On va éviter le piège de Thucydide. Et la deuxième chose importante, c'est que Xi Jinping a rappelé l'importance qu'il accorde à Taïwan. Et donc, en filigrane, ça veut dire, Taïwan, c'est important pour moi. L'Iran, c'est important pour vous. Est-ce qu'on peut pas trouver quelque part, un accord? Ça n'a pas été dit, mais c'est en filigrane.
Alors, ces efforts chinois dont on parle, est-ce qu'ils peuvent permettre à Donald Trump d'avancer dans la solution du conflit?
Alors écoutez, non à court terme, quand il est rentré à la Maison Blanche, Trump s'est retrouvé seul. C'est à lui de prendre la décision qui était celle qu'il devait prendre avant son voyage en Chine. Est-ce que je négocie un mauvais deal ou est-ce que je recommence les bombardements? Et donc la balle est dans son camp et la Chine n'interviendra pas. Par contre, si à un moment donné, avant ou après les bombardements, Trump constate ce qu'on appelle l'impasse, et essaie de se sortir de cela de façon, disons, pas trop défaitiste. Une négociation est possible où l'Iran, où la Chine pourrait apporter sa contribution. Ça serait autour de la libération du détroit d'Ormuz. Et ça serait de vagues promesses de l'Iran sur le nucléaire, promesses suffisamment vagues pour que les sanctions américaines ne soient pas levées. Les sanctions seraient maintenues. Et puis on aurait quelque chose d'important, c'est que les Américains, par exemple, ne livreraient pas de nouvelles armes à Taïwan en échange de cette intervention. Vous voyez, c'est un échange de bons procédés à minima, mais ça peut permettre à la fin temporaire du conflit. On aurait donc une situation qui ressemblerait à celle d'avant le 28 février, avant l'attaque américaine, mais avec un Iran qui s'est peut-être à la fois très affaibli, mais radicalisé, et qui reprendra évidemment sa marche vers toutes ses ambitions islamistes. Et donc, ce serait la préparation à un nouveau conflit. C'est dans le long terme alors qu'on peut voir l'intérêt d'un rapprochement entre les États-Unis et la Chine pour que ce conflit reste localisé, ne devienne pas un conflit qui déborde. Et donc on voit bien que ces deux hyperpuissances maintenant qui se reconnaissent l'une l'autre à parité pourraient essayer de cogérer l'ordre mondial. Voilà. Et donc ça sera pour nous des discussions à avoir dans les semaines qui viennent. Quelle peut être l'organisation d'un nouvel ordre mondial géré au fond par un G2 et comment est-ce que Poutine verrait ça, etc. Donc ça ouvre des perspectives, mais ça c'est des perspectives à long terme et probablement au-delà du mandat de Trump.
Et on aura évidemment, comme vous l'avez rappelé, l'occasion d'en parler dans nos prochaines conversations. Merci beaucoup, Daniel Abert, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. On se retrouve la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine, au revoir.